Bonjour à tous, bienvenue dans notre dernière émission de ce mois de novembre. Je suis ravie d'avoir à mes côtés plusieurs invités qui vont nous parler de manifestations culturelles qui vont marquer les tout prochains jours. Sur notre plateau, Michel Pastor. Michel, bonjour.
Bonjour.
Qui est directeur artistique de Musique Interdite. Il va nous présenter l'opéra monodrame Le Journal d'Anne Frank que l'on pourra voir les 7 et 8 décembre au Théâtre National de la Criée. Bernard Valero.
Bonjour.
Bonjour, directeur de la Villa Méditerranée, nous sommes ravis de vous recevoir. Nous avions projeté de vous avoir à l'antenne, mais peut-être que ça se fera prochainement, pour que vous puissiez aborder d'une manière importante toute cette structure de la Villa Méditerranée. Il est accompagné par Valérie Gerbeau. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Déléguée générale du CMCA, que nous avons eu le plaisir et la joie d'avoir l'an dernier sur notre plateau. Et tous deux aborderont la 19e édition de Primed, un moment attendu également par tous les Marseillais, qui est prévu les 5 et 12 décembre. Alors, avant de leur donner la parole, Michel, peut-être pour nous mettre carrément déjà dans l'ambiance de cette création qui va avoir lieu le 7 et le 8 à la Criée, nous allons écouter un extrait. Vous avez prévu de nous faire écouter un extrait.
Alors juste, on va entendre, juste pour la qualité musicale,
oui,
du compositeur qui est un russe, hein, qui n'était pas du tout interdit, qui s'appelle Grigory Fried.
Oui.
Mais comme Shostakovich, si vous voulez, Shostakovich était un peu plus interdit que lui, mais c'est russe qui est flirté un petit peu entre l'interdit et l'autorisation. Donc c'est vrai qu'à l'époque, bon, Anne Frank, c'était pas très bien vu. Il y avait toujours un courant antisémite. Quand même, son premier opéra, il a voulu le faire, c'est un mono-opéra, c'est-à-dire c'est pour une seule chanteuse,
oui,
il a voulu le faire sur Anne Frank. Et son deuxième mono-opéra, qui est aussi pour un baryton, c'est sur les lettres de Van Gogh. Donc c'est deux interdits quand même.
Oui.
Van Gogh et Anne Frank, on ne peut pas faire mieux comme interdit et comme, comment dire, comme proclamation de ce qu'est peut-être la liberté. Donc juste l'ouverture pour vous montrer le style musical de Fried, qui s'apparente à Alban Berg et un peu à Shostakovich.
Très bien. Voilà. Voilà, nous allons écouter cet extrait. Alors, Michel ?
Oui.
Alors, quelles ont été vos motivations pour choisir particulièrement cette œuvre ?
C'est parce que l'œuvre, musicalement, est une réussite absolue. Parce que c'est, comment vous dire, mettre un journal d'une jeune fille qui a vécu enfermée de 42 à 44 dans une cachette et qui a écrit un journal qui est d'une intelligence et d'une acuité extraordinaire. Mettre ça en musique lyrique. Actuellement, c'est quand même un challenge difficile à tenir. Et Fried l'a tenu, et c'est une œuvre magnifique dont il nécessitait absolument de faire cette création. Alors j'ai eu la chance absolue, j'ai appelé Masha Makeyev pour lui dire voilà le projet, elle m'a dit oui, banco, on le fait. Et si vous voulez, l'histoire, c'est pas tellement de faire le lyrique, l'opéra, c'est pas réaliste, c'est du lyrique, c'est de la poésie, c'est de la musique, c'est de l'émotion. Donc c'est pas du tout un film restituant Anne Frank, c'est simplement la réalité de son témoignage. Actuellement, qu'est-ce que c'est le témoignage d'Anne Frank ? Donc ça va être chanté par une soprano qui s'appelle Émilie Pictet, qui était déjà venue pour Musique Interdite en 2010 à Passeray. Et en 2011, à l'église Saint-Cana, où elle avait créé La vie éternelle de Schrecker, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, c'est pas. Il y a la version lyrique de la chanteuse, mais j'ai demandé aussi à Masha Makeyev d'être récitante. C'est-à-dire, il va y avoir comme deux témoignages d'Anne Frank. une chanteuse, une soprano, et puis une récitante qui le dit, qui dit d'autres extraits du journal d'Anne Frank et qui sont en écho l'une l'autre. Et si vous voulez, c'est pour bien montrer qu'Anne Frank, ce n'est pas le nom d'un lycée, ce n'est pas le nom d'une gare comme maintenant, c'est, pas, c'est quelqu'un de vivant et que n'importe qui aussi peut témoigner de ce qu'est Anne Frank. Donc il y a les deux personnages, il y a Émilie Pictet qui va être la soprano qui va chanter, et il y a Masha Makeyev qui va réciter, dire les quelques textes d'Anne Frank. Voilà.
Et vous avez également, il y a l'Orchestre Philharmonique de Marseille.
Non, c'est pas l'orchestre, c'est des solistes.
Ah pardon. Pardon,
Grégory Fried a composé ça pour 9 instruments.
Ah très bien.
Solistes.
Oui.
Donc ce sont des solistes, des super solistes même, on peut le dire, puisque c'est le nom qu'on leur donne, de l'Orchestre Philharmonique de Marseille, qui sont choisis et sélectionnés pour faire ce petit ensemble orchestral. C'est très intimiste. Vous savez, Anne Frank, elle vivait dans 3 mètres carrés. Donc, on est dans la petite salle de la Criée.
Oui, c'est ça, le petit théâtre.
Et ça va être dans l'image, c'est quand même, on va être confiné. Et j'espère qu'on comprendra un petit peu qu'est-ce que c'est que d'être dans, pendant un temps, dans le confinement. Mais malgré tout, avec ce pouvoir de témoigner, de parler, de dire, de chanter, de composer, de créer, en gros, on a toujours le pouvoir de sortir de cette incarcération dans laquelle la dictature peut nous mettre.
Et vous avez participé d'une manière active, comme vous le faites toujours. Vous avez vu, vous avez travaillé avec Masha également pour la mise en scène, vu avec toute la mise en scène de cette œuvre.
Non,
il n'y a pas de mise en scène.
Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de metteur en scène. Il y a simplement, avec Masha et avec Émilie, et surtout avec Marc Albrecht, qui est un des plus grands chefs actuels, internationalement reconnu. Il dirige à la Scala, à Bayreuth, partout. Et il m'a fait l'amitié et l'amabilité de participer à cette aventure. Donc, c'est pas une mise en scène, c'est pas un spectacle.
C'est quelque chose de très pur.
C'est plutôt une cérémonie, on va dire.
Ah, très bien.
Je préfère le terme... J'aime pas trop le terme de cérémonie, parce que ça devient un peu sacré, mais je sais pas comment dire. C'est
un hommage.
Quelque chose, oui, hommage, mais c'est pas un concert.
Très bien.
C'est pas un concert, c'est on va assister à quelque chose, on va vivre ensemble quelque chose.
Oui, je crois que d'ailleurs peut-être ce deuxième extrait que vous avez choisi va nous donner un petit peu plus l'ambiance de l'œuvre.
Alors là, c'est l'interlude qui est au milieu de l'opéra, donc où Anne ne chante pas, Masha ne parle pas, et c'est un interlude uniquement orchestral où il y aura une projection vidéo avec un scoop, ce que j'ai trouvé sur à la fois Anne Frank et sur ce qu'elle avait fait dans sa chambre. Qui était couverte de photos de stars et ce rêve qu'elle avait de continuer à vivre. Voilà, donc c'est l'interlude qu'on va écouter qui dure à peu près 3 minutes.
Très bien. C'est à la fois, nous avons un peu parlé en aparté, mais la musique est à la fois prenante et un peu bouleversante aussi.
Oui, ben c'est la force à la fois du lyrique et de la musique. La musique est quand même un langage qui sursignifie le texte. Alors oui, la qualité de Fried, justement, c'est que il a fait une écriture vocale. Hein, c'est ouais. Très très difficile la partition pour la soprano parce qu'il a fait une écriture vocale qui vraiment, on dirait qu'elle est en train d'écrire tout en chantant. Ah, donc c'est un continuum comme ça, elle peut pas respirer, enfin c'est une très belle œuvre, vraiment.
Ce que nous pouvons dire aussi à nos auditeurs, c'est que le texte est en allemand, mais il y a une traduction.
Alors,
le texte est
en allemand, pourquoi ? Parce que Fried l'a composé en russe, puisqu'il était russe,
oui.
Et ensuite il a décidé, pour être connaître un peu dans le monde, de le faire en allemand. N'oublions pas qu'Anne Frank était allemande
oui.
au départ, donc c'est légitime que ce soit en allemand. Donc c'est en allemand, c'est la version, il y a deux versions de Fried, la version russe et la version allemande. Donc c'est la version allemande que nous présentons, avec des surtitrages en français, évidemment. Et les textes, par contre, que dira Masha Makeyev, évidemment, seront en français.
Très bien. Alors, vous avez quelque chose à nous préciser également sur cette œuvre-là, peut-être, pour nos auditeurs, pour les... comment les répétitions ont été faites à Marseille ?
Ben, il y a déjà eu des répétitions à Amsterdam, et puis là, demain, on commence la répétition à Marseille. Donc voilà, c'est une création, donc c'est beaucoup de travail.
Et cette création, vous avez prévu et vous l'avez projetée en tournée ?
Écoutez, on verra, hein, comme toujours, après, si on peut évidemment la représenter ailleurs. Voilà, il y a une possibilité à Amsterdam. Avec l'opéra d'Amsterdam, mais pas dans l'opéra, dans une chapelle qui est à côté de l'opéra. Voilà, point.
Très bien. Alors, nous pourrons voir donc cette œuvre le lundi 7 et le mardi 8 décembre à 20h au Petit Théâtre National de la Criée. Les tarifs sont vraiment très, très, très bas. Hein. Vous avez fait le choix pour donner l'accès au plus grand nombre possible. C'est entre 6 et 12 euros. Hein, c'est ça. Et la durée de cet opéra est de 1h15 à peu près. On peut réserver, et ça, il est prudent de réserver, soit directement à la Criée au 04 96 17 80 34 ou avec musique interdite ?
Non.
Non, alors directement à la Criée. On fait les réservations directement à la Criée. Alors, avant de nous quitter, Michel, je pense que nous allons faire un petit retour sur ce qui s'est passé l'an dernier, en 2014, la fin du festival.
Ce que je voudrais dire, c'est pas 2014, c'est que 2015, c'est les 10 ans de musique interdite.
Ah, les 2015, oui, pardon.
Voilà, c'est 10 ans de musique interdite. Oui. Et donc, en 2014, en effet, on a créé dans la cour de la préfecture, avec l'orchestre symphonique de la garde républicaine.
Oui.
Donc, c'était vraiment avec tous les honneurs de la République, et ça, j'en suis très fier. Le dernier opéra de Grande Gueule, qui a été interdit personnellement par Hitler en 1938, qui s'appelait Catherine, et c'est une version plus courte qu'on a faite, qui s'appelait Catherine versus Zone Libre, puisque dans cet opéra Catherine, le deuxième acte se passe à Marseille, donc prophétiquement.
Ah oui, absolument.
Prophétiquement, où elle veut retrouver son fiancé, qui a disparu, qui est parti à la guerre, et qui cherche des papiers, et tout, etc. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en 40. Donc, on ne peut pas rêver mieux que de le faire dans la cour de la préfecture. C'était sous le haut patronage du préfet. Et donc, on a fait une captation audio et vidéo. Et le CD va paraître pour Noël.
Voilà. Très bien. Et c'est cet extrait là que nous allons écouter ?
Voilà. Et là, on va entendre un extrait donc, de l'air de Catherine qui se plaint que son... qu'elle voudrait retrouver son amoureux parce qu'il est parti à la guerre. Enfin, c'est tout le déchirement parce qu'en plus, Catherine est allemande et François, son amoureux, est français. Donc, c'est complètement prophétique, cet opéra. Et voilà. Donc, c'était 2014 et c'est 2015, c'est les 10 ans. Et on fête ça avec la sortie du DVD qui sera sous le label Bel Air Musique et disponible sur Amazon.
Sur Amazon, à partir de
Noël.
À partir de Noël, donc tout prochainement.
Voilà.
Nous allons écouter cet extrait.
Merci.
Oui, Michel, c'est vraiment quelque chose de totalement mélodieux, quelque chose qui porte l'âme. Et nous aurons l'occasion de l'écouter un peu plus pleinement dès sa sortie. Et puis, pour nos auditeurs, nous aurons l'occasion certainement de l'écouter, puisque nous allons le programmer lors des émissions littéraires. J'aime bien, quand il y a certaines choses qui sont très fortes comme ça, de pouvoir en parler. Merci, Michel.
Très volontiers. Merci à vous.
Merci de.
Et à très bientôt.
Merci de nous avoir parlé de cette très belle manifestation. Alors, qui, pour nos auditeurs, je le rappellerai tout à l'heure, aura lieu le 7 et le 8 décembre. Alors, nous allons continuer avec nos invités et avec Primed. Avec Primed, qui va débuter aussi tout prochainement, puisque c'est prévu pour le 5. Voilà, hein, le 5. Alors, nous allons... alors, Valérie, je suis ravie de vous avoir à nouveau avec nous pour nous parler de cette manifestation qui a toujours énormément de succès, hein, puisque l'an dernier, justement, en quelques mots, donnez-nous... Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier ? Alors, donnez-nous. Est-ce que vous êtes enthousiaste par rapport à tout ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez eu les personnes qui sont venues escomptées ?
Oui, on a eu 40 réalisateurs, on a eu 6000 personnes qui sont venues voir les projets. Et on a eu un parrain prestigieux, puisque c'était Yasmina Kadra, on en avait parlé l'an dernier. Donc c'est une très belle édition et on espère que cette année 2015 va être encore plus belle.
Oh, j'imagine, parce qu'il y a une programmation quand même qui est très très intéressante aussi. Et puis nous avons la venue de Bernard Valero. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau aussi, puisque vous êtes tout nouveau sur Marseille, hein, puisque vous avez pris vos fonctions à la direction du groupement d'intérêt public Avitem. En octobre dernier.
C'est ça.
Et comme Avitem s'occupe également de la Villa Méditerranée, et par ce fait, vous êtes devenu directeur de la Villa Méditerranée.
Absolument, c'est une expérience qui est à la fois très enthousiasmante et nouvelle pour moi, puisque je faisais un autre métier avant de venir.
Oui, justement, c'est pour nos auditeurs, si vous permettez, je vais brièvement survoler ça, mais parce que c'est un parcours quand même qui est extraordinaire. Vous avez justement tout à l'heure, nous en parlions, pour vous, la communication est très très importante, mais vous avez été quand même consul général adjoint au Québec. Hein. Ensuite, vous avez été conseiller de presse à Madrid, puis à Washington. Ensuite, vous avez été consul général de Barcelone, ambassadeur en Macédoine et jusqu'à 2012, la prise de votre fonction sur Marseille, vous avez été ambassadeur de France dans le royaume de Belgique. Alors, c'est quelque chose de très important.
Oui,
hein.
Non, c'est évidemment
un beau parcours, ça.
Je ne sais pas, mais j'ai beaucoup travaillé pour la France durant toute ma carrière et c'était vraiment un engagement personnel très fort, et je trouve que faire le métier de diplomate, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je dis pas que c'est le plus beau métier du monde, mais être mobilisé durant toute sa carrière pour faire gagner la France dans tous les domaines sur la scène internationale, je trouve que c'est une belle aventure. Là maintenant, j'en commence une nouvelle auprès de vous ici à Marseille, et maintenant les défis qui s'offrent à moi, enfin pas à moi tout seul naturellement, c'est un travail collectif bien sûr, c'est de faire gagner Marseille, de faire gagner son territoire, la région, sur l'espace méditerranéen, l'espace euro-méditerranéen, et c'est ce que nous faisons jour après jour à la Vitem, qui est un centre de référence français sur la Méditerranée en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, et puis également à la Villa Méditerranée, et là c'est du bonheur pur puisque nous préparons à accueillir le Primed dans quelques jours, et je pense que nous allons passer de grands moments ensemble.
Alors justement, avant justement d'aborder totalement Primed, tous les deux, vous allez pouvoir nous aborder ça d'une manière importante. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu, en quelques mots, brièvement, on aura certainement l'occasion d'en parler un peu plus longuement, mais l'objectif principal de la Vitem.
La Vitem, c'est un centre d'expertise français qui s'est constitué au cours des dernières années et qui fait de la coopération avec les pays du sud de la Méditerranée sur financement européen principalement, mais également d'un certain nombre d'institutions, que ce soit des institutions de l'État comme le ministère des Affaires étrangères, le commissariat général à l'égalité des territoires ou la ville de Nice, la région également Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui partie d'un constat assez simple finalement, qui est de celui de voir que environ 70 à 80% de la population qui habite autour de la Méditerranée vit en milieu urbain. Oui. Et à partir de là, en milieu urbain, il y a un certain nombre de problèmes qui sont communs aux uns et aux autres. Que soit ici à Marseille ou à Beyrouth, à Alger ou à Barcelone, les responsables politiques, les administrations municipales doivent traiter de problèmes tels que l'environnement, le traitement des eaux, la mobilité en milieu urbain, la création d'emplois, la construction de logements, l'efficacité énergétique, ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. Et donc, à la Vitem, nous avons constitué véritablement un outil de travail, un outil de coopération qui diffuse sur l'ensemble du bassin méditerranéen l'expertise que nous avons en France sur ces questions-là. Et nous le faisons avec le soutien de l'Union européenne, avec des fonds européens, et nous travaillons sur des projets très concrets, et nous faisons également de la formation, parce que la gouvernance, le sujet de la gouvernance est un sujet également qui est très très important lorsqu'on est à la tête d'une ville de 500 à 1 million d'habitants. Il est évident que derrière, il doit y avoir une administration aussi en état de fonctionner. Oui. Et nous faisons du transfert d'expérience, du partage d'expertise avec les municipalités de la rive sud de la Méditerranée. Et cette action est particulièrement utile, je pense, parce que nous faisons du travail utile, du travail qui profite directement aux populations qui sont concernées. Et je pense que ça renforce également le rayonnement de notre pays sur l'ensemble de la Méditerranée.
Et la Villa Méditerranée, bien entendu, est un moyen extraordinaire pour communiquer justement et permettre de faire communiquer à tout ce sud-là.
Absolument. Vous savez, je voudrais pas trop insister là-dessus, mais la tragédie que nous avons connue à Paris au cours des derniers jours a une fois de plus remis le projecteur sur la nécessité d'avoir, au-delà des mesures qui peuvent être prises en matière de lutte antiterroriste. Et là, nos autorités nationales s'y emploient avec beaucoup de mobilisation. Il y a un travail de fond, un travail à beaucoup plus long terme qui doit être mené. C'est ce que j'appellerais également le temps diplomatique, c'est-à-dire oui. la connaissance de l'autre, le dialogue avec l'autre, qui n'est pas du tout incompatible avec la lutte contre les terroristes. Et finalement, nous avons ici à Marseille cette Villa Méditerranée qui est au service de la ville, au service de son territoire, au service de la région. Vous savez, la France est très attendue dans l'espace méditerranéen parce que c'est notre histoire, c'est notre géographie que nous partageons avec tous les pays riverains. Et puis ce que nous partageons également avec eux, c'est un destin commun. C'est-à-dire que nos enfants vivront avec leurs enfants, et etc., etc. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de faire aussi en sorte que ce dialogue entre les peuples méditerranéens, ces échanges culturels entre les pays, cette coopération puisse devenir chaque jour plus important. Parce que c'est important de dialoguer avec les autres, c'est important de connaître mieux les autres, et c'est surtout important de faire des choses avec les autres.
Oui.
Ça agrandit finalement nos territoires de liberté. Accessoirement, ça agrandit également nos territoires de sécurité. Et je pense que par les temps qui courent, ce n'est pas un vain mot. Et c'est ce travail que nous faisons également à la Villa Méditerranée. C'est un travail collectif. Tout le monde s'y met. Nous avons cette chance de disposer de cet écrin, de cet espace.
Ah, c'est magnifique. C'est un vaisseau magnifique.
Tout à fait extraordinaire. Et nous essayons véritablement, jour après jour, avec toutes les équipes et toutes les bonnes volontés et de très, très nombreux partenaires, nous essayons véritablement d'en faire un pôle de rayonnement, de Marseille en Méditerranée, de la région en Méditerranée, de la France en Méditerranée, comme d'autres villes peuvent l'être également sur l'ensemble méditerranéen. Je pense en particulier à Barcelone, par oui. exemple, qui n'est pas très loin et qui est un petit peu, une référence, mais un partenaire aussi pour nous, avec lequel nous devons aussi travailler en direction des pays du Sud. Et véritablement, la Villa Méditerranée est un carrefour et un espace d'échange très, très actif.
Et justement, alors Valérie, c'est l'endroit absolument rêvé pour vous. C'est un des endroits rêvés puisque vous avez explosé un petit peu votre festival, votre semaine de films documentaires. Mais il y a beaucoup de...
Ah, le lieu principal, c'est la Villa Méditerranée. Effectivement,
oui,
c'est là où il y a le plus
C'est l'essence même de votre festival et des ambitions de la Villa Méditerranée.
Exactement. On a une histoire commune depuis le début avec la Villa, depuis le projet qu'avait voulu le président Vauzel, et on a accompagné ce projet et depuis l'ouverture de la Villa. Donc c'est la troisième édition que l'on organise à la Villa Méditerranée, à la BMVR de l'Alcazar et au MUCEM, une seule journée sur le MUCEM.
Très bien, donc c'est quand même en plein centre-ville et oui. toujours un petit peu à proximité, cet endroit un peu stratégique. Alors cette année, une semaine de projection qui est gratuite, c'est toujours, ça c'est important, une semaine de... Alors voyez, chers auditeurs, je vous propose des manifestations de grande qualité et où vous pouvez vivre pleinement cela et qui vous sont offerts par les différents organisateurs. Ça, c'est quand même très, très important. Alors, une semaine de projection, débat, rencontre, découverte. Il y a 18 pays qui sont représentés. Vous présentez combien de documentaires et combien de films seront projetés?
Alors, en fait, on a reçu environ 350 films
oui.
et on en a sélectionné 24.
Oui.
Et ces 24 vont être projetés sur les trois lieux dans la semaine du 5 au 12 décembre.
Oui.
Et on invite le public à venir nombreux voir ces films qui reviennent sur l'actualité méditerranéenne, cette actualité qui est très très riche, mais le documentaire... C'est un peu différent du reportage, c'est-à-dire que le documentaire, on peut prendre le temps d'expliquer beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut faire dans un reportage. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information Kleenex. On a une information, on la développe dans tous les journaux pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis on passe à une autre info. L'info pousse l'autre info. Donc, nous, ce qu'on souhaite pendant le Primed, c'est que les gens puissent avoir le temps de comprendre, qu'on leur donne des explications sur ce qui se passe en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est un environnement qui, dès qu'on parle de Méditerranée, les gens se disent c'est une catastrophe, c'est la guerre en Syrie, ça va mal, tout ça. Mais la Méditerranée, c'est des joies, c'est des peines, c'est notre essence à nous tous, surtout à Marseille, ville multiculturelle par excellence.
Oui. Alors, vous avez énormément de manifestations. On va pouvoir en parler un petit peu. Et vous avez également, comme chaque année, donné une part importante à la jeunesse, aux enfants, aux jeunes, aux adolescents.
Voilà. Le 24 novembre dernier, on a réuni à la Villa Méditerranée près de 500 élèves lycéens de la région. Mais au-delà de la région, nous avons aussi demandé à des élèves croates et des élèves suisses à Genève de visionner 4 documentaires qui ont été sélectionnés parmi les 24 œuvres qui vont être présentées à Marseille. Ces 4 documentaires ont été visionnés dans les classes individuellement. Oui. Et puis on a réuni tout ce petit monde, 500 personnes quand même, c'est beaucoup, 600 avec
à la Villa Méditerranée.
Toute une après-midi et une matinée, une journée entière consacrée aux lycéens, et on leur a donné la parole. Et c'était extrêmement intéressant. Nous avons des jeunes dans nos lycées qui ont une maturité impressionnante. Nous étions tous impressionnés par les discours qu'ils ont tenus, les présentations qu'ils ont faites, des films qu'on leur a proposés.
Oh, c'est très bien, c'est très bien. Ça veut dire que souvent, on a tendance à médire sur cette jeunesse, mais je crois qu'on en est quand même très loin. Il y a justement tous ces outils, toute cette information qui les imbibe et qui leur donne peut-être leur jugement, ou tout au moins une première approche de jugement.
Exactement. Et puis, ils ont leurs professeurs qui les accompagnent, qui contextualisent les documentaires que l'on montre. C'est un accompagnement à long terme, qui est très intéressant pour eux parce que ça sort un peu des programmes scolaires, de la façon d'apprendre que l'on a dans nos lycées. On est dans une éducation à l'image, ce qui est... Les professeurs sont quand même extraordinaires d'accepter ça dans leurs cours parce que ce sont des élèves de première et de terminale qui ont des examens en fin d'année, mais quand même, on fait passer beaucoup de choses à travers ces films et c'est très important et je remercie d'ailleurs les professeurs de nous suivre.
Et l'image, c'est un vecteur quand même qui est très, très, très fort, accompagné de mots, bien entendu, mais c'est un vecteur qui imprègne immédiatement l'esprit. Hein, c'est quelque chose de très important. Alors, parlez-nous alors maintenant un petit peu de ce festival-là. Donnez-nous un petit peu les moments forts, quels sont les parrains, quel est l'invité privilégié. Expliquez-nous tout
alors, ça. Alors, on a une grande chance cette année, puisque après avoir eu Yann Arthus Bertrand, Rachid Arab, Yasmina Kadra, nous avons l'actrice algérienne Biouna, une actrice danseuse, chanteuse, je pense que vous la connaissez tous, c'est quelqu'un de connu en Méditerranée, qui est quelqu'un d'assez drôle, très sympathique, très ouvert, et qui adore la Méditerranée. Donc, elle a accepté de nous rejoindre, c'est quand même une actrice connue et on va la voir à Marseille et tout le monde pourra la rencontrer parce qu'elle sera à la Villa Méditerranée toute la journée du 11 décembre, hein, le matin pour le débat, mais on y reviendra je pense Claudia tout à l'heure, et l'après-midi pour la remise des prix puisque c'est ouvert au public, comme les projections, tout ça est gratuit et ouvert à tous. Ensuite, nous avons des thématiques fortes pendant les projections, les films que l'on propose, par exemple sur la jeunesse. On va revenir sur des films qui peuvent intéresser tout public, hein. Ce n'est pas simplement des adultes. Je pense en particulier à un film sur le football. Le football, ça intéresse beaucoup de gens. Le peuple de Nejmé, ça se passe au Liban. Ouais. C'est une équipe de football qui a fédéré tout un pays autour de lui pendant des années. Parce qu'il faut savoir que dans tous les quartiers au Liban, il y a des équipes de football qui sont propres au quartier. Et Nejmé est l'équipe reconnue dans toute la ville comme étant porteur de drapeau, si vous voulez. Voilà, donc il y a un film sur cette équipe de football. Et puis, pour la jeunesse encore, quand on parle de Palestine, de territoire palestinien, d'Israël, souvent on pense au conflit. Et bien là, on découvre 4 jeunes filles palestiniennes. Les jeunes en Palestine s'amusent aussi. Et ce sont 4 jeunes palestiniennes qui font des courses automobiles et qui se confrontent aux hommes. Et quelquefois, elles les gagnent et elles ont un bonheur derrière leur volant, assez communicatif. C'est une œuvre, c'est une première œuvre en plus et qui n'a pas été vue nulle part ailleurs. Donc c'est une avant-première ici à Marseille, c'est à la Villa.
Et ce qui est très intéressant, c'est que justement tous ces pays qui connaissent des difficultés à l'heure actuelle vont pouvoir être visionnés avec quelque chose de particulier. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je crois que après ce que Valérie vient de nous exposer, ce festival Primed, moi, m'enthousiasme. Parce que d'abord, c'est une humanité qui se dégage de tous ces films. L'anecdote de ces jeunes palestiniennes qui font des courses de voitures,
oui,
enfin, c'est que c'est quelque
c'est
chose...
C'est surprenant, oui, c'est merveilleux.
C'est complètement fou, oui. Mais ça donne de l'espoir. Mais je crois aussi, il y a une autre fonction, si vous me permettez. Moi, je porte un regard tout à fait nouveau, puisqu'il y a à peine 2 mois que je suis des vôtres, désormais. Mais je trouve qu'il y a une dimension de solidarité aussi qui est très, très forte dans, dans l'initiative, dans cette manifestation Primed, solidarité par rapport à tous ces créateurs, à tous ceux qui font ces reportages, ces courts-métrages, ces documentaires et qui tout d'un coup ont la possibilité de se montrer ici à Marseille. Je crois que c'est très important pour eux, c'est une reconnaissance de leur travail. Ils ne travaillent pas toujours dans des conditions toujours très faciles, hein,
bien sûr,
dans
j'imagine.
Un certain nombre de pays. Ouais. Par souci diplomatique, je ne vais en nommer aucun, mais on sait qu'il y a des pays où ce n'est pas toujours facile de faire de l'image, de faire du cinéma, des interviews, de faire des déclarations. Ils le font, parfois avec beaucoup de courage. Et je pense que c'est votre démarche, Valérie, est tout à fait louable, parce que vous leur offrez la possibilité de venir se montrer. Vous leur offrez la possibilité de venir s'exprimer chez nous, parce que nous sommes une terre d'accueil, y compris pour l'image, pour le cinéma. Et dans certains cas, ça peut être d'une importance tout à fait décisive et cruciale pour certains de ces réalisateurs.
D'ailleurs, pour nous, ce sont des réalisateurs qui viennent du monde entier et qui ont un regard sur la Méditerranée. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est
oui.
pas la Méditerranée qui se regarde, c'est le monde entier qui regarde la Méditerranée. On a des films qui viennent des États-Unis, de Suède, pas des pays qu'on imagine être vraiment intéressés par la Méditerranée. Et on a la chance d'avoir les réalisateurs qui viennent ici à Marseille. À partir du jeudi, ils seront à Marseille. D'ailleurs, le jeudi soir, nous aurons une rencontre à la Villa
oui.
entre... eux et aussi des producteurs de la région, c'est aussi ça, hein, et des élèves des élèves du Master 2 de cinéma de l'Université d'Aix
oui.
Qui viendront à la rencontre des réalisateurs. C'est aussi ce brassage, cet échange d'expériences qui fait que ce sont nos jeunes de demain qui vont tourner demain, qui vont raconter la Méditerranée de demain, qui vont être là et qui vont s'enrichir au contact de ces réalisateurs. C'est très important. Et ça, il faut remercier la Villa de nous permettre cette rencontre, parce que c'est rare d'avoir autant de réalisateurs venir nous raconter comment ils ont tourné, comment ils ont réussi à convaincre les gens de témoigner, parce qu'il ne faut pas oublier...
Ah, c'est pas évident. Hein.
C'est pas évident.
Non.
On a un film sur l'Algérie, par exemple, les jeunes s'expriment à visage découvert et racontent leurs difficultés, et c'est pas toujours facile de le faire.
Bien
je trouve
sûr.
Que c'est un travail de confiance. Ces réalisateurs, vraiment, ont fait un travail à long terme. Et c'est pour ça que le documentaire, c'est important par rapport au reportage, si vous voulez. Parce que c'est vraiment un travail à long terme. Il y a le temps de la réflexion du réalisateur, de l'écriture du scénario, de la rencontre avec les gens et de la qualité de la parole qu'il va pouvoir capter à travers les images et le son et la musique aussi, qui est très importante souvent dans un documentaire.
Oui, et justement ces réalisateurs, ce sont des jeunes, ils ont quel âge même ? Il y a une fourchette importante ?
Alors, on s'enorgueillit au CMCA, donc qui est l'organisateur, au départ, si vous voulez, c'est le CMCA qui a proposé ce Primed et qui est accompagné par la RAI et la télévision italienne, 2M qui est la chaîne du Maroc, France Télévisions aussi qui nous accompagne. France Télévisions est président de notre association, le CMCA donc. Et puis l'ASBU, c'est les diffuseurs du monde arabe qui nous accompagnent, qui sont co-organisateurs de ce prix. Donc, on a des réalisateurs qui sont... jeunes, pour la plupart, parce qu'on souhaite, si vous voulez, donner la parole à des gens qui souvent ne l'ont pas. On pourrait donner la parole à des grands réalisateurs,
oui.
mais ceux-là sont connus.
Bien
Donc,
sûr.
Autant donner leur chance à des jeunes réalisateurs et quelquefois moins jeunes aussi. C'est pas forcément l'âge qui fait qu'on peut démarrer. Il y a des gens qui ont aussi... On a eu un réalisateur une année qui a d'ailleurs fait une exposition à la Villa Méditerranée, la première exposition qui s'appelait Bruno Ulmer, qui avait été médecin urgentiste, qui avait fait HEC et qui s'était retrouvé réalisateur de documentaires à la fin.
C'est, donc plusieurs
on peut
vies.
Avoir plusieurs vies, des gens moins jeunes et des gens très jeunes qui... n'ont pas la chance d'être diffusés sur les chaînes de télévision. Et pourtant, vous voyez, nous, on est entourés de chaînes de télévision. Nous, on est accompagnés par les chaînes de télévision autour de la table de notre conseil d'administration. Ce sont les chaînes du bassin méditerranéen qui sont là. Mais souvent, il y a beaucoup de documentaires qui sont tournés, mais qui ne sont jamais diffusés. Et nous, nous souhaitons donner la parole à des réalisateurs qui ont rarement l'occasion d'être entendus ailleurs. Et de primer ces réalisateurs-là. On a primé depuis de longues années maintenant, on en est à la 19e édition, de nombreux réalisateurs ont été primés, et grâce à notre festival, on fait un parcours qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant, si vous voulez, oui. Sans passer par là, parce que nous avons une spécificité au Primed, c'est que nous avons des prix à la diffusion, nous avons trois chaînes qui donnent des prix à la diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire, un prix à la diffusion? Ça veut dire que les chaînes de télévision qui nous rejoignent et qui acceptent de donner ces prix vont négocier avec les réalisateurs les droits de diffusion et puis ensuite elles vont
superbe.
Diffuser sur leur chaîne
superbe.
Les superbe. Documentaires.
C'est un tremplin absolument extraordinaire. Oui, c'est oui. Superbe.
On ne veut plus que les documentaires restent sur des étagères prendre la poussière. Quand un réalisateur tourne un documentaire, il y met son âme, il y met son argent souvent parce qu'il a très peu d'argent pour tourner, sauf en France où on a la chance d'avoir le CNC, où on a beaucoup d'aide. Mais il faut savoir qu'en Méditerranée, il y a certains pays où les producteurs ne vivent pas de leur travail. Nous, voilà, on leur donne un petit coup de pouce pour être connus, pour être primés. Il y a un petit peu d'argent derrière les prix. On remet 7 prix différents, plus 3 prix à la diffusion.
Oui. Oh ben c'est vrai, c'est quelque chose de très important. Alors, il doit être vraiment très, très délicat de faire un choix parmi les 800 reportages qui vous sont adressés. Alors, est-ce que quand vous choisissez le reportage les reportages qui vont faire l'édition 2015, vous gardez par devers vous certains reportages qui vous ont beaucoup plu, mais que vous pouvez diffuser parce qu'en fonction du temps, hein, tout simplement, et que vous allez reporter pour l'année 2016, ou alors il y a carrément quelque chose d'autre qui s'établit?
Non. On ne diffuse pas, on ne garde pas pour l'année 2016. Quand on concourt qu'une seule fois. Nous ne choisissons pas tout seul. Il y a des professionnels de l'audiovisuel, ouais, qui sont réunis, qui ont été réunis au mois de mai. C'est pas le CMCA qui décide. On réunit un petit groupe d'experts audiovisuels. On l'a fait chez 2M, donc la chaîne de télévision marocaine à Casablanca au mois de mai dernier. Et c'est ce jury international qui a choisi les 24 œuvres. Les autres œuvres, on peut les faire vivre après. Nous, on va proposer à la Villa, d'ailleurs, si la Villa fait une semaine spécifique sur l'environnement, par
voilà,
exemple,
oui.
La Villa va nous demander, est-ce que vous auriez un film sur l'environnement? Et puis nous, comme on connaît bien nos films, malgré tout, oui, bien qu'on ait un nombre très important de films réceptionnés tous les ans, eh bien, on va proposer une petite programmation ou sur d'autres lieux, bien sûr, bien évidemment, de la même façon.
Ah, c'est très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une semaine très, très, très forte, très importante concernant ces projections, mais il n'en reste pas moins vrai que vous suivez, vous continuez à suivre tout au cours de l'année tous ces jeunes, tous ces réalisateurs.
Voilà. Ce qu'on fait également, c'est qu'on a créé un catalogue de documentaires à destination des diffuseurs, parce que nous, ça dure une semaine, c'est très bien, on montre les 24 films, mais ce qu'on souhaite, c'est que ces films puissent être vus sur les chaînes de télévision aussi, c'est notre rôle. Donc on a créé un catalogue et que l'on imprime tous les ans, qu'on envoie aux diffuseurs, et les diffuseurs peuvent piocher dedans, se mettre en contact avec les réalisateurs. On est des passeurs de savoir, si oui, vous voulez. Et on aide ces réalisateurs à essayer d'avoir une autre vie pour leurs documentaires. On les amène aussi dans les festivals, partout en Méditerranée, en Turquie, en Algérie, en Tunisie, dans les pays méditerranéens. Et on va montrer des films dans d'autres festivals. On va avoir des partenariats avec d'autres festivals.
Ah, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est quelque, oui, chose qui est un suivi qui est très intéressant. Alors, dans toute votre programmation, il y a des moments phares. On peut parler quand même de cette marraine déjà. Hein. On peut parler un petit peu de cette marraine. Cette marraine, on pourra la rencontrer quand, cette marraine de votre festival?
La marraine de notre festival sera là à partir du jeudi. Elle sera, oui, là le jeudi-vendredi. Elle va participer à des projections. Elle va participer à la rencontre avec les réalisateurs. réalisateur à la Villa le jeudi soir.
Oui.
Elle va être présente le jeudi soir à la projection du film, qui est un film mémoriel sur des descendants d'origine arménienne qui ont été élevés dans des familles turques. Et il y aura une projection le jeudi soir, donc le jeudi 10 décembre à 20h30 à la Villa.
Gros sujet, ça aussi.
Gros sujet, puisqu'on est sur le centenaire du génocide arménien. Elle sera là le lendemain matin, tout le long de la journée à la Villa, pour la projection débat sur les chemins de l'exil. Nous allons projeter à partir de 10h Voyage en Barbarie, qui est le film qui a reçu le prix Albert Londres 2015. C'est
un très beau film
qui revient sur la traversée du Sinaï de jeunes érythréens et qui nous raconte leur histoire terrible. Et à l'issue de la projection, nous allons avoir un débat autour des chemins de l'exil, qui donnera la parole à un ou deux réfugiés, on est en train de travailler dessus, ainsi qu'un journaliste qui vient de la RAI, qui a fait une traversée pendant une semaine avec des migrants, et un professeur de Sciences Po qui prendra de la hauteur et qui nous donnera quelques clés pour comprendre ce qui se passe.
Des sujets qui sont plus que d'actualité, hein. Qu'en pensez-vous, monsieur? C'est vraiment des sujets qui sont au cœur même des pensées de tout le monde.
Des pensées de tout le monde, souvent des drames aussi de la région. Et malheureusement, l'actualité nous amène un lot peut-être plus élevé que de coutume de drames en Méditerranée, et ça donne tout son sens finalement au Primed de donner des éclairages sur un certain nombre de situations, un certain nombre de d'acteurs, et puis de faire réfléchir les spectateurs, de ceux qui se confrontent à ces témoignages, à ces images, à ces paroles. C'est important. Valérie disait tout à l'heure que les jeunes, vous le disiez également, les jeunes viennent, discutent, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça les fait réfléchir, ça les amène à porter un autre regard un petit peu sur leur environnement, sur leurs préoccupations quotidiennes, et puis ça leur permet, je pense, de comprendre, aussi tragique soit-il, de comprendre un peu mieux le monde dans lequel ils vivent et qui n'est pas toujours qui donne pas toujours motif à se réjouir. Et donc je crois que cette manifestation est importante, comme on le disait tout à l'heure, elle est source d'humanité, de solidarité, et puis elle amène un grand nombre à se poser des questions, et puis surtout à essayer de trouver les réponses, parce que c'est ça qui est important.
C'est important, mais le plus difficile, le plus délicat.
Oui.
Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il va y avoir un prix du public aussi le 5 décembre au MUCEM. Cette fois-ci, il y a une journée où le public va pouvoir voter pour 4 courts-métrages. C'est à partir de 15h le samedi 5.
Donc les courts-métrages vont être
projetés
dans la même journée.
Voilà, dans la même après-midi. Donc on va pouvoir voter. Le public va avoir la parole cet après-midi-là. Et puis à l'Alcazar aussi, à partir du mardi jusqu'au samedi, il y a des projections en présence des réalisateurs, comme avec la Villa. Il y a des avant-premières aussi, les réalisateurs présents, il y a des débats. Enfin, il faut venir, c'est très intéressant. Souvent, quand il y a les débats, on a aussi des échanges avec les réalisateurs qui vont au-delà de ce qu'on a vu derrière les images, nous racontent comment ils ont pu travailler. Et ça aussi, c'est très intéressant pour le public. Le mardi, à la Villa, encore une fois, il y a une journée spéciale pour les femmes, qui nous raconte un peu les femmes en Méditerranée.
Grand problème aussi, grand sujet. Oui. Et cette journée est prévue pour
le mardi 8 décembre.
Le mardi 8 décembre, à quelle heure, Valérie ?
Ça commence à 14h.
Oui.
Et là, vous avez 4 films. Ça commence par Patience, Patience, t'iras au paradis. Je pense que les personnes qui nous écoutent doivent savoir ce que ça veut dire. C'est ce qu'on dit souvent aux femmes parce qu'elles trouvent que la vie est dure, et leur mari leur dit Patience, Patience, t'iras au paradis. Donc voilà, ça se passe en Belgique. Ce sont des femmes qui ont eu des vies assez difficiles et qui découvrent à la retraite qu'on peut faire des choses rigolotes et sympathiques entre femmes. Ensuite, il y a un film sur la révolution des femmes, la place des femmes pendant les révolutions dans le monde arabe, avec des retours historiques sur ce qui s'est passé en Égypte dans les années 50. Le troisième film, c'est un court, c'est Rebelle de Raqqa. C'est une Syrienne qui vivait à Raqqa et qui a filmé ce qui se passe dans la ville sous sa burqa. Et c'est son témoignage très émouvant que l'on a. Et pour finir, à 18h30, ce fameux film Speed Sisters sur...
Nos courses de voiture.
Voilà, nos courses de voiture de jeunes filles fort charmantes à Jenin, en fait. Voilà.
Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, pour nos auditeurs, nous avons encore quelques minutes, nous avons 2-3 minutes, mais il est quand même très intéressant de donner toutes les indications, Valérie. C'est-à-dire, on peut se procurer sur un site toutes les informations hein, qui sont mises à jour régulièrement.
Voilà, alors il y a le site du Primed, où on ne parle que du Primed, c'est www.primed.tv.
Oui.
À la Villa Méditerranée, sur le site de la Villa Méditerranée aussi, vous avez la programmation sur le site de l'Alcazar aussi, et sur le site du MUCEM pour la journée du 5 décembre.
Très bien.
Voilà, donc et toutes les informations, c'est www.primed.tv.
Nous avons aussi la possibilité, bien entendu, d'avoir toutes les indications dans les offices de tourisme pour les personnes qui viennent, dans les offices de tourisme et dans tous les lieux culturels, je suppose.
Hein. Oui, alors on a beaucoup de bénévoles, je dois les remercier ici parce qu'ils font un travail formidable, comme l'équipe du CMCA et l'équipe de la Villa. On a les grands chefs, pardon de le dire comme ça, qui parlent, mais il y a toutes les équipes qui sont derrière, qui font un travail assez extraordinaire et qu'il faut le reconnaître, il faut le dire. On est très peu nombreux les uns et les autres. Et on essaye de répondre et de faire au mieux pour que la Méditerranée soit mieux connue, mieux perçue. Et je reviens sur nos bénévoles. Les bénévoles donnent des flyers sur le Primed partout dans Marseille à chaque fois qu'il y a une manifestation devant les lieux culturels. Et puis dans tous les lieux culturels, on a fait passer, même dans les universités, les cinémas, il y a des flyers qui ont été déposés un peu partout. Et surtout, si vous manquez de flyers, écoutez, allez sur le site et vous avez toutes les infos.
Voilà, c'est quelque chose de très important. C'est une semaine très, très, très forte. Une semaine très forte où la Méditerranée est mise à l'honneur plus que jamais et elle a besoin justement d'être vue avec un autre regard. Le mot de la fin, Monsieur Valero ?
Non, un grand merci à tous ceux qui participent à cette aventure. Et puis le mot de la fin, c'est simplement pour dire à chacun et à tout le monde, venez nombreux. On vous attend.
Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, de nous avoir parlé de cette grande manifestation. Et puis maintenant, on va venir vous voir.
On vous attend.
Chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Vous pourrez écouter nos invités dans nos archives sonores à partir de demain. Au revoir. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, God luck my baby, it's wonderful, I dream of you.